Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Milenko est un homme médecine originaire du désert d'Atacama au Chili. Dans cette émission Regarde ailleurs, Milenko nous parle de son histoire personnelle, celle d'un jeune homme colérique en quête de paix et de sérénité. Un parcours de vie qui l'amène à rencontrer différentes traditions, différentes médecines et différents enseignements qu'il partage avec nous en France, avec l'idée de remettre plus de sacré pour se reconnecter à la Pachamama, la terre-mère.
Milenko, voilà, je te rencontre sur un festival, ça s'appelle le festival au cœur du sacré. Donc Milenko, je ne sais pas grand-chose sur toi.
Oui, bonjour tout le monde. Oui, je m'appelle Milenko et c'est mon nom de naissance. Je viens effectivement du Chili. Je viens du nord du Chili, des plateaux et del désert de Atacama, l'altiplano du Chili.
Alors je te rencontre aujourd'hui en France, tu parles avec nous le français. L'émission s'appelle Regarde ailleurs, donc c'est donner la parole à des francophones, à des écrivains, des voyageurs. Là sur ce festival, je cherche des gens en lien avec les traditions des peuples, les hommes médecine. Ici, pas mal de chamans. Donc toi, tu dis que tu viens du Chili, du désert d'Atacama. Donc on va revenir il y a longtemps, peut-être dans ton enfance. Est-ce que tu savais, enfant, qu'un jour tu irais vivre à l'étranger ?
Non, vraiment, mais c'est vrai que quand j'étais un enfant, j'ai rêvé beaucoup. Et je pense que ça, c'est le plus important d'un enfant, de rêver. J'avais rêvé d'aller un jour en Chine. Et voilà, c'était une mission impossible parce que quand j'étais un enfant, je viens d'une famille qui n'avait pas beaucoup d'argent. Très pauvre, on n'avait pas trop à manger. Voilà, la vie d'une famille de petits ressources en Amérique du Sud. Il ne restait que rêver. Voilà, j'ai rêvé et dans ce parcours de rêve, qui finalement c'était un parcours initiatique, j'ai arrivé en France. Mais c'est un parcours assez long qui s'est pris beaucoup, beaucoup d'années.
On va prendre le temps de raconter ce parcours, mais je reviens sur ton enfance, parle-moi, où essaie de te donner une dimension visuelle de là où tu habitais, tout là-bas, au Chili, quand tu étais enfant, dans quel contexte familial, culturel, social tu as grandi.
Bon, on va parler des événements traumatiques, mais c'est part de mon histoire, et part d'un gros part de l'histoire des gens du Chili, de mon âge. Parce qu'on est fils, on est enfant de la dictature militaire. Je suis né dedans de la dictature militaire. Du coup, voilà, évidemment, c'était pour les personnes âgées qui, à certains âges, pour se rappeler de ce temps de dictature en Chili, dans lequel c'était assez difficile à niveau international, mais à niveau national, c'était vraiment difficile pour... C'était une dictature très, très radicale dans laquelle millions de personnes ont souffert. Et donc, voilà, des milliers de personnes exiliées, des milliers de personnes mortes et des enfants, voilà, traumatisés pour la dictature militaire. Ouais, je suis un enfant traumatisé.
On est en quelle année, là, quand tu parles de la dictature militaire au Chili ?
Les années 60, il s'est fini les années 70, 71, 72, 73. Voilà, jusqu'à 99, je crois que la fini, je ne me rappelle plus quand la dictature a fini au Chili, mais je me rappelle que j'avais autour de 15 ans, je crois, ou 16 ans, autour de ça, quand la dictature a fini au Chili.
Quand tu parles de traumatisme, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il reste de cette époque ?
Et la violence, la répression, la manque de liberté, et liberté d'expression, l'ignorance aussi, et l'oppression. Voilà tout ce qu'un homme libre il peut souhaiter.
À quel moment ou qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves ici en France? Quel est l'événement qui t'a ramené dans notre pays?
L'événement se vient un petit peu avec deux choses. La première chose, c'est que quand j'étais enfant, j'ai rêvé beaucoup. Et qu'un jour, je voulais aller en Chine. Et l'autre chose très importante pour moi, c'est que la colère, la rage que je sentais quand j'étais adolescent, un jour, j'ai réfléchi que comment je pouvais guérir esa rage, comment je pourrais travailler sur la colère, sur tout ça quoi on était nourri, hein, parce qu'on s'est nourri d'inconscience collective, donc tout ça c'est très présent. Et un jour j'ai réfléchi, je dis je voudrais pas vivre toute ma vie avec sa rage, avec sa colère, en vouloir de faire mal des frères et des sœurs. Et j'ai trouvé une solution. Et un jour, je dis, je vais partir de Chili, parce que si je reste au Chili, je ne sais pas comment me libérer de sa colère, si je vais aller connaître un petit peu le monde. Et j'ai parti en un voyage en Amérique du Sud pour 8 ans, dans lequel j'ai souhaité de guérir un petit peu tous ces sentiments qui étaient très profonds de moi et qui vraiment me faisaient souffrir énormément.
Ok, donc là tu as quel âge quand tu quittes le Chili pour faire un voyage en Amérique du Sud?
J'avais 22 ans. J'avais 22 ans. J'ai quitté le Chili, j'ai passé des études une université au Chili que j'avais réussi à avoir des VEC qui venaient de Finlande. Et j'avais des bonnes qualifications et j'avais réussi à avoir des études. Mais avec quelque chose en moi qui n'allait pas trop tout rond. Qui est une chose, ok, je vais grandir, je fais mes études et après quoi, je vais devenir une personne. Et avec un solvant économique, mais ce n'était pas ça finalement ce qu'un part de mon âme souhaitait. C'était plus important pour moi, c'est retrouver ce qui était à l'intérieur de moi. Et en ce moment, ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, c'était voilà, un sentiment très négatif. Et là, j'ai décidé de partir. Quand j'ai pensé partir, au premier instant, je voulais connaître tout Chili avant de partir. So j'ai fait un petit voyage du nord, du désert d'Atacama, jusqu'à Terre de Feu, presque 5000, 6000 km tout autour du Chili, jusqu'à Terre de Feu. Et après, j'ai commencé à voyager en Argentine, Paraguay, Uruguay, Brésil, Colombie, Équateur, Pérou, voilà toute l'Amérique du Sud.
Quel était l'objectif? Est-ce que tu avais un fil conducteur, un fil rouge? Est-ce que tu avais, dans ce voyage en Amérique du Sud, une recherche, une quête?
Vous, sincèrement, on avait simplement essayé d'obliger tout ça, tous ces rapports à la violence et à ce qui avait passé au Chili, connaître un petit peu le monde, ouvrir ma vision des choses, connaître des autres cultures, des autres lieux, des autres endroits, obliger un petit peu, mais avec sa marche, ce chemin, ça a devenu vraiment un chemin spirituel. Mais ça a pris des années de me rendre compte que ça avait tout fait un pèlerinage de mon âme.
On va parler un peu de ce parcours spirituel, ce parcours initiatique. Mais est-ce que dans ta famille, il y avait déjà ce côté spirituel? Est-ce qu'on parlait des plantes? Est-ce qu'on parlait du chamanisme? Est-ce qu'on parlait de transe ou pas du tout?
Et avait un petit peu ma mère aussi, de toute petite, comme voilà, les finances n'étaient pas assez, on n'avait pas accès à des docteurs, à des médicaments. Et ma mère toujours nous soignait avec des plantes, des choses qui, évidemment, c'est les moins chères, non? Ce qu'on trouve dans la nature. On avait déjà tout ça à différents niveaux. Mais dans ma famille, lui-même, il n'y avait pas. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui. Je n'ai pas suivi à quelqu'un de ma famille et à personne de ma famille qui a fait ce que j'ai fait, mon parcours spirituel. Je pense que c'était vraiment un appel de mon âme, de mon esprit et voilà, une quête personnelle. Ouais.
Et donc dans ce voyage en Amérique du Sud qui va durer 8 ans, qu'est-ce que tu rencontres comme spiritualité? Qu'est-ce qui est impactant
pour toi comme expérience?
Je pense que le plus impactant en ce voyage, c'était de revenir, de trouver la mémoire. De... Voilà, Chile a souffert beaucoup et les dictateurs ils ont coupé beaucoup de la tradition ancestrale de notre culture, non, atacameña. Et du coup, il faudrait se rappeler, il fallait trouver la mémoire. Et ce que j'ai retrouvé dans ce voyage, j'ai trouvé une part de mémoire, de mes traditions, de mes cultures, de mon souhait d'être qui je suis aujourd'hui.
Et donc ce passé, cette mémoire, comment tu l'as retrouvée? Parce que tu parles de l'Atacama, mais quand tu voyages, tu es dans d'autres pays d'Amérique latine. Donc est-ce que c'est à travers des Chiliens que tu rencontres? Ou comment est-ce que tu reconnectes avec ta culture et tes traditions?
En Amérique du Sud, et les cultures, c'est pas aussi différent.
Éloigné,
okay. Oui, éloigné, exactement. On a des rapproches qui sont les mêmes. On vient des clans, des tribus, on vient d'une culture animiste qui était, voilà, comme tout le monde connaît, était christianisée, évangélisée. Et voilà, il fallait venir de nouveau à la source, à notre terre. Finalement, les cultures animistes, les cultures traditionnelles, c'est des cultures très simples. Revenir à la nature, revenir à le primordial. Qu'est-ce que le primordial? C'est, voilà, remercier ce qu'on voit, remercier l'air qu'on respire, et le feu qui nous nourrit et qui nous chauffe. Et l'eau, voilà, la simplicité des choses. Revenir à ça.
Revenir à une forme d'essentiel qu'on a perdu aujourd'hui en se déconnectant complètement des éléments de la nature.
En part de ça, hein, et en part de ça, c'est revenir à les croyances aussi naturelles, simples, mais venir aussi à retrouver la spiritualité plus profonde, venir à se reconnecter avec l'énergie, le créateur, l'énergie qui a créé ce qu'on est. Ce qu'on voit autour de nous et la force que sa nature elle nous donne est la force de vivre, de respirer en une forêt, de voir dans la cime de la montagne un joli coucher du soleil. Je pense que ça c'est vivre et l'instant.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Pour en revenir à ce voyage spirituel en Amérique du Sud, ce que tu as rencontré, ce qu'on appelle chez nous, des chamans, des hommes médecine, ce que tu as rencontré, des plantes, ce que tu as fait des diètes, ce que tu as fait des cérémonies, des rituels.
En ce parcours en Amérique du Sud, oui, en tous ces pays dans lesquels j'ai vécu, j'ai trouvé des abuelos et des abuelas, des grands-pères et des grands-mères, dans lesquels sont porteurs des traditions et dans lesquels j'ai pu apprendre à me nourrir différemment. Et effectivement, à travers des diètes, des plantes sacrées, dans lesquelles on peut passer un période de temps sans boire, sans manger, ou diéter une seule plante pour des semaines, des fois des mois. Et sans, des fois, les diètes, c'est strictement sans manger aucun sucre, c'est pas de sel, et pas de fruits. Et pas de chaud, pas boire de l'eau, que des tisanes tièdes. C'est des diètes qui sont très très strictes.
Pourquoi on diète? Quel est l'intérêt d'une diète? Qui c'est qui a mis en place ou qui a créé ce système de diète?
La diète, c'est un système de purification du corps physique. C'est une purification du corps émotionnel et mental aussi. Et aussi, au-delà du corps émotionnel et mental, c'est aussi une purification de l'esprit. Et ça existe depuis des milliers d'années, transmis de personne en personne, de lequel on arrive à soigner, à libérer des tas d'esprits, des tas d'âmes, et de lesquels je soigne beaucoup mon colère, ma rage, à travers de diéter certains types de plantes. Voilà. Je pense que tout ça que j'avais gardé, on le vomit, on le sort du corps, et elle part, voilà, on part plus légère, on part plus en paix, et on se sent mieux.
Donc toi, dans ton parcours, tu disais, Milenko, que tu avais envie de sortir de cette colère qui t'habitait, hein, et essayer peut-être aussi de te rapprocher des rêves que tu avais enfant. Donc le fait de faire des diètes t'a permis de guérir quelque chose. Tu as vraiment senti un avant et un après. Le Milenko d'avant est devenu différent d'après.
Et je pense qu'il y a des diètes qui m'ont vraiment marqué. Ce sont les diètes beaucoup plus draconiennes, je dirais, donc vraiment, elle avait besoin d'un énorme souhait de finir, commencer, et maintenir sa diète et finir avec une diète. Et passer pour ça, et ça m'aide beaucoup aussi à me libérer de toute esa colère qu'il y avait, me libérer de frustration, de rage. Je pense qu'aujourd'hui, je dois beaucoup à ces personnes de mon chemin, et je dois beaucoup aussi à ce chemin spirituel aussi de diète. Oui.
Milenko, je te rencontre en France. Qu'est-ce qui s'est passé?
Voilà, j'ai sorti du Chili, j'ai fait ce voyage 8 ans en Amérique du Sud. J'ai eu l'opportunité de voyager au Caraïbes, Panama, Centro-Amérique, et là j'avais récupéré un petit peu d'argent, j'avais appris à faire de l'artisanat, dans lequel j'ai fait actuellement encore de l'art, de l'artisanat, des sculptures, des bijoux. Et en ce moment, j'avais gagné un petit peu d'argent, et voilà, j'ai utilisé tout cet argent pour acheter un ticket d'avion en Angleterre. Et là, ça a été une autre part de ce parcours. J'ai arrivé en Angleterre, j'ai acheté une bicyclette.
Tout seul.
Tout seul, effectivement. J'ai voyagé 300 en bicyclette en Europe et un petit peu en Afrique du Nord. Et en ce voyage, j'ai trouvé une femme française, d'origine française. Et avec un petit peu de temps, on a eu un enfant quelques années, et on était en Égypte, et plus tard on était en Inde, et on a eu notre enfant en Inde. On a resté deux années en Asie, et là après presque 15 ans de voyage, j'ai arrivé à mon rêve d'enfant. Je me trouvais en Chine, dans les murailles chinoises, comme que là j'avais abouti à mon rêve d'enfant.
Ok, donc il y a eu beaucoup de voyages entre l'Amérique du Sud où ça a duré 8 ans. Tu arrives en Angleterre, tu achètes un vélo et tu voyages en vélo en France. Alors à cette époque, tu disais que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu faisais juste de l'artisanat. Comment est-ce que tu as réussi à passer 3 ans sur les routes d'Europe?
Voilà, comme je disais, je faisais l'artisanat et tout ce que j'ai gagné, c'était pour voyager. En bicyclette, ça ne me coûtait pas trop cher. Et manger non plus. Et je trouvais dans cet homme beaucoup de solidarité aussi des gens dans tous les pays que je voyageais en Europe, en Angleterre, en Danemark, en Allemagne, en Suisse, en France. Et après, dans les pays aussi comme au Maroc, au Égypte. Voilà, je vivais un petit peu de la solidarité des gens. Et avec des gens qui m'invitaient à manger, des gens qui m'invitaient à dormir. Des gens qui voulaient savoir de moi, de savoir qu'est-ce que j'ai fait. J'ai partagé ma culture, j'avais partagé ce que j'ai appris. Et plus j'ai pratiqué ce que j'ai appris, plus je devenais maître de moi.
Et quand on parle de voyage solitaire, on se rend compte aussi qu'on est complètement dépendant des autres.
Et on est dépendant de certaines mesures. On est dépendant. Mais quand quand tu voyages en bicyclette, tu n'es vraiment pas trop dépendant. Hein. Tu es dépendant pour manger, mais pas beaucoup d'argent, ça suffit pour manger.
Hein. Bah non, tu as continué à voyager quand même, après, même en couple.
Oui, là, après, justement, on a eu un enfant et les choses ont changé. Là, voilà, il fallait réfléchir à comment nourrir son enfant. Voilà, qu'à un moment, on a continué à voyager. Et la maman de mon fils, elle avait quelques économies. Et voilà, on a utilisé ces économies. J'ai travaillé en créant de l'artisanat. On gagnait de l'argent, un petit peu suffisant pour manger, pour louer des endroits et pour vivre. J'ai eu une très belle surprise en Chine, qui comme en ce temps, je parle de déjà c'est plus de 20 ans en arrière, il y avait très peu de gens d'Amérique du Sud qui rentraient en Chine, que quand j'arrivais en Chine, l'artisanat d'Amérique du Sud était très apprécié pour les jeunes asiatiques. So, du coup, on a bien vendu, on a eu la chance de payer les hôtels, les restaurants, les voyages d'avion avec le qu'on gagnait en ce temps. Ouais.
Là, tu es sur un festival au cœur du sacré. Et qu'est-ce que tu fais là? Quel est l'objet de ta présence ici?
Depuis que j'ai retourné en Europe, on a retourné après ces voyages. Et mon enfant, il a grandi ici en France. Voilà, il est né en Inde. Mais il a grandi en France, on est arrivé quand mon fils il avait 5 ans, après d'avoir retourné en Chili, avoir ma famille, avec mon enfant et tout ça. Et on est retourné ici en France, et là, voilà, il a 5 ans, l'école avait un choix à faire, on a décidé de le scolariser, de trouver voilà, ma vie ici. Et ce temps, je me séparais de sa mère aussi. Mais voilà, mon fils il était ici, je ne voulais pas me séparer de mon fils et je restais en France. Et voilà, j'ai commencé à travailler avec l'artisanat et en même temps, parallèlement, j'ai commencé à donner des enseignements de tout ce que j'avais appris en toutes ces années de voyage, 15 ans de voyage.
Et qu'est-ce que tu transmets alors comme enseignement aujourd'hui?
Aujourd'hui, je suis focalisé sur les traditions anciennes de mon continent. De Avayala, comme ça qu'on les appelle les nombres indigènes, et continent américain, donc tout ce que j'ai appris desde Chili au Mexique. So, je suis de Temazcal qui vient de Mexique, qui est sur un chaman spirituel qui s'appelle le chaman rouge, et des cérémonies de tabac que j'ai appris en Amazonie et au Chili aussi. Et de différents types de soins énergétiques, spirituels et énergétiques, et d'équilibrage des âmes, de l'esprit aussi. Il y a un parcours de diète que je pratique avec des personnes qui souhaitent venir voir de toutes les diètes que j'avais pratiquées en ces années de voyage en Amérique du Sud.
Alors comment est-ce qu'on fait pour équilibrer les âmes?
Pour équilibrer?
Les âmes.
Comment équilibrer les âmes des gens? Déjà, pour équilibrer les âmes des personnes, il faut que les personnes souhaitent. On peut rien faire si la personne n'est pas en souhait d'un changement. Quelque chose qui souhaite qu'il change. Parce que sinon, on est contre un mur. Mais quand la personne a l'intérêt de changer quelque chose, c'est nul. Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui est supérieur, qu'on n'est pas les êtres les plus forts de l'univers, et qu'au-delà de nous, il y a vraiment des énergies qui sont au-delà de nous. Là, on peut changer beaucoup de choses. Mais il faut que la personne ait un souhait profond aussi.
Regarde ailleurs.
C'est rare d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Aujourd'hui, en France ou en Europe, est-ce que tu observes aussi cet engouement pour tout ce qui est tradition, Amérique du Sud ou Inde? J'ai l'impression que l'homme occidental, ou peut-être l'homme de manière générale, est en quête de sens. On se sent vide de l'intérieur, parce qu'on est peut-être comblé matériellement, hein, dans les mondes et dans les sociétés dans lesquelles on habite, mais on n'est pas comblé spirituellement. Et des festivals comme celui-là, il y en a de plus en plus, et j'ai l'impression que de plus en plus de jeunes, ou de moins jeunes, sont en quête de sens, et viennent ici pour essayer de trouver des réponses.
Effectivement, si on regarde l'histoire un petit peu entre les années 60-70, l'arrivée en vague d'Orient, de Inde, et tout ça, les gourous et tous les maîtres spirituels hindous d'Orient sont arrivés en Europe et voilà, ils ont fait son travail ici. Et aujourd'hui, ils viennent à notre sagesse qui était gardée en Amérique et qui aujourd'hui elle se réveille aussi. Et qu'elle est en train d'arriver ici en Amérique, d'Amérique en Europe, plus fort, chaque fois plus fort. Je me rappelle quand j'arrivais ici en France, un petit peu plus d'une dizaine d'années, c'est vrai que c'était le début de ça. Et aujourd'hui, on est en train d'arriver à un point de que les personnes elles trouvent des réponses. En regardant en les cultures qui viennent d'Amérique. Pourquoi? Je ne pourrais pas dire exactement pourquoi, mais la nécessité, elle est là. Et la nécessité d'un monde spirituel est autant qu'ici, autant qu'en Amérique, autant qu'en Afrique, autant que donde j'étais, c'était toujours la question de trouver quelqu'un qui peut nous aider à avancer. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'humanité... elle peut avancer d'une seule façon. Avant, c'est le temps de peut-être s'aller illuminer dans une grotte, passer des années dans la grotte, comme Bouddha ou des autres maîtres, et trouver l'illumination. Et je pense qu'aujourd'hui, le changement global de l'humanité est à travers de la unification et le groupe, et la conscience collective du groupe. C'est la façon dont je ressens que le monde va changer radicalement.
Donc par le collectif?
Exactement. À travers des cérémonies collectives, avec des rituels collectifs, avec un développement des lieux qui nourrit des façons de voir le monde différent, qui croit aussi qu'on peut encore améliorer non seulement le confort matériel, mais soulager les problèmes psychiques, les problèmes émotionnels et aussi les problèmes spirituels.
Qu'est-ce que tu fais ici comme soin ou qu'est-ce que tu proposes comme rituel sur le festival?
Très simplement, je propose une cérémonie, par exemple, une cérémonie de tabac ou des plantes de mon continent. Quand je parle, c'est parce qu'il y a beaucoup d'ignorance. Quand les gens, je dis toujours, quand les étrangers sont arrivés en Amérique, ils ont pris les plantes. Par exemple, deux petits exemples. Le premier exemple, c'est qu'ils ont pris la feuille de coca et l'ont amenée ici. Et sa feuille de coca, qui est une plante sacrée de notre continent, de notre culture, il était pris pour des mains qui n'étaient pas bonnes mains, ils ont créé la cocaïne. Ils sont complètement prostitués en plan sacré, et la donnant addictif, et la donnant dangereux, et en prenant des profits de quelque chose de sacré. Et le tabac, ils ont amené le tabac de là-bas, ils l'ont amené ici, et qu'est-ce qu'ils ont fait avec le tabac? Ils ont créé des maladies de poumons, ils ont créé des personnes addictes au tabac. Mais le problème, c'est qu'ils ont amené que la plante, mais ils ont obligé l'esprit de la plante. Ils ont créé un déséquilibre des énergies. Quand les énergies sont déséquilibrées, voilà, l'obscurité arrive. Et ma mission aujourd'hui, c'est créer conscience de que ces plantes ne sont pas négatives, ne sont pas addictives. Ce sont des plantes sacrées. Et chaque fois quand quelqu'un il vient à mon cérémonie et qu'il fume du tabac, j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de personnes qui sont venues me voir pour des addictions. Et vraiment, je suis très content de les voir 300 après. Ils m'ont dit, oh, Milenko, j'ai arrêté de fumer le tabac. J'ai arrêté de prendre des drogues. Voilà, c'est ça la vraie façon d'utiliser ces plans sacrés. C'est restaurer l'équilibre des choses et pas fomenter la ignorance sur les choses qui sont sacrées pour des peuples traditionnels. Aujourd'hui, on voit dans la ONU, dans les organisations unies, c'est très en débat parce que c'est des patrimoines de l'humanité. C'est des patrimoines de les traditions ancestrales.
On a ramené les plantes, mais on n'a pas ramené l'esprit des plantes. C'est intéressant, ça, comme concept. Donc, pour toi, les plantes ont un esprit.
Tout un esprit. La nature, c'est un esprit. Et l'amour, c'est l'esprit. L'esprit de l'amour. La sagesse, c'est un esprit. Si on ne peut pas toucher l'esprit de la sagesse, on devient ignorant. On devient une personne qui croit tout ce que les gens elles disent. On fait tout ce que les gens elles disent. On sert indépendant. Parce qu'on n'a pas trouvé à capter quelque chose à l'intérieur. Quand vraiment on suit un chemin de sagesse, on se questionne. Et tout est un esprit de l'eau, l'esprit de l'eau. Comment on connaît l'esprit de l'eau? On passe un jour sans boire de l'eau et on va, quand on recommence à boire de l'eau, on va pleurer et on va le retrouver. On va dire, on va se rendre compte de comment elle est sacrée l'eau. Mais si on a l'eau, on ouvre le robinet et l'eau elle fluge comme ça, on ne peut pas retrouver l'esprit de l'eau parce que c'est donné à la main. Tout ce qui est donné trop facilement, les gens ne prennent pas conscience de ce que les choses sont. Il y a des chauffages ici. Toutes les maisons avec des chauffages, et tout le monde vient habiller, voilà, c'est tout bien chaud. Voilà. Mais si tu n'as pas froid, comment tu vas connaître l'esprit du feu? Si tu n'as pas faim en ta vie, comment tu vas connaître l'esprit de la nourriture?
Créer, apprendre à apprécier les choses essentielles, simples, et ne pas les banaliser comme on fait dans le quotidien.
Les choses ne sont pas banales. Les choses sont pure énergie. Les choses sont profondes. Les choses sont spirituelles. Voilà notre terre. Elle nous offre tout. Le Créateur nous offre tout. Toutes les choses qu'on a. Et on n'a pas le temps de remercier. On oublie à remercier. Pourquoi? Parce qu'on a tout. Mais les gens qui n'ont rien, et quand ils commencent à avoir un petit peu, ils savent qu'il faut remercier à la terre, à la nourriture, à les énergies. Il ne faut pas oublier.
Merci.
Oh. Aïe, aïe, aïe.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Venez d'écouter l'émission Regarde ailleurs, une émission que j'enregistre lors de mes différents déplacements en tant que photographe, reporter et voyageur. J'aime bien penser qu'une rencontre peut en inspirer beaucoup d'autres et j'aime donner la parole à tous ceux qui ont un parcours de vie en lien avec le voyage, l'interculturalité, le mouvement ou la découverte du monde ou la découverte de soi.